Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Ça va venir peut-être? 1, 2, 1, 2. Ça vient? Ça fonctionne pas? Si, ça vient, ça vient. 1, 2, ça marche. Super. Ok. Ok. Alors, écoutez, on va poursuivre notre lecture des actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez où est-ce que nous l'avions laissé. Mais aujourd'hui, on va aborder donc le chapitre 11. Et donc pour celles et ceux qui peut-être n'étaient pas là le dimanche précédent, on va refaire un petit récap vite fait du contexte, à moins que quelqu'un veuille le faire. Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est apparu aux ses disciples, il est resté quelque temps avec ses disciples, et il leur a fait une promesse, parce qu'il leur a expliqué qu'il ne pourrait pas rester, mais qu'il fallait qu'il remonte, qu'il monte au ciel. Et il leur a fait cette promesse du Saint-Esprit, qu'il recevrait une puissance et qu'il serait à ce moment-là les témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc on assiste à la première communauté, la naissance de la première communauté chrétienne. Avec ça arrive la persécution, avec ça arrive aussi la conversion de Saul, Saul qui était un persécuteur de l'Église, qui persécutait l'Église, et donc Dieu va intervenir, Jésus va apparaître à Paul et à Saul, et Saul va se tourner vers Jésus et commencer à prêcher Christ. Et puis ensuite, il y a Pierre chez Corneille, où là, on voit qu'il y a une ouverture de l'évangile aux païens, aux non-juifs. Et donc, on va reprendre un petit peu ce texte au chapitre 11. Alors, on ne va pas prendre tout le chapitre 11. Je vais me concentrer sur quelques versets. On va lire à partir du verset 19 et on va aller jusqu'au verset 26. Voilà. Donc, si vous avez vos Bibles, je n'ai pas prévu de PowerPoint, hein, je suis désolé. Donc, vos téléphones, vos tablettes ou vos Bibles, ça sera. Vous pouvez suivre avec moi. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Saul, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'aime beaucoup ce verset 23 qui dit de Barnabas, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. » Et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Barnabas a vu quelque chose. Il a vu la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vu exactement? Est-ce que la grâce de Dieu a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Qu'est-ce qu'il a vu? Ce qui est certain, c'est que ce qu'il a vu a produit en lui de la joie. Merci. Merci. Il est dit de Barnabas que c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et on lit dans Actes 4, un peu plus haut, que ce surnom lui a été donné par les apôtres, Barnabas, qui se traduit « fils de consolation ». D'exhortation, celui qui encourage. Et ça devait être une caractéristique particulière, visible en lui. Surtout qu'en plus, c'est arrivé au moment où c'était la première communauté chrétienne, où tout le monde partageait. Mais de lui, on dit particulièrement qu'il avait cette caractéristique. Joseph, de son vrai prénom, était aussi quelqu'un qui avait son regard sur ce que Dieu fait. Par exemple, c'est Barnabas qui a pris Saul et qui l'avait conduit vers les apôtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Saul était un grand persécuteur de l'Église, et quand bien même Jésus l'a touché, quand bien même il s'est mis à prêcher Christ, quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il a voulu se joindre aux disciples de Jérusalem, tous le fuyaient, car ils le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Mais Barnabas, il a vu autre chose. Il a vu, il a reconnu l'action de Dieu dans la vie de Saul. Et c'est lui qui va le prendre et le présenter aux apôtres en leur expliquant comment, sur le chemin, Saul a vu le Seigneur qui lui a parlé et comment, à Damas, il s'est exprimé ouvertement au nom de Jésus. Et notre texte, dans notre texte aujourd'hui, encore une fois, Barnabas a son regard sur ce que Dieu fait. Il arrive à Antioche et il voit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est visible et je pense qu'elle l'est encore aujourd'hui, comme elle l'était à Antioche. Et ma prière ce matin est que nous puissions être comme Barnabas, que nous puissions voir et reconnaître ce que Dieu fait, que nous puissions voir sa grâce à l'œuvre et alors nous en réjouir. Le monde cherche à capter notre attention, capter notre regard sur des tas d'autres choses pour l'en éloigner de Dieu. Et cela date pas d'hier, c'est pas un fait nouveau. Quand nous ne focalisons pas notre regard sur ce que Dieu fait, notre foi s'en trouve éprouvée et on se met à douter et on se prive de la joie que procure la grâce de Dieu et du fruit qu'elle produit dans nos vies. Donc il y a d'abord un encouragement à veiller au quotidien, à garder nos yeux fixés sur Dieu et à nous y encourager les uns les autres, car ce n'est pas toujours facile. Le Dieu de ce siècle, le diable, cherche toujours à aveugler les pensées. Il y a ce verset dans Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 4, qui dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Peut-être ce matin, tu fais partie de ceux qui sont aveuglés dans leurs pensées et qui sont empêchés de voir Jésus tel qu'il est vraiment. Et vraiment, je prie pour que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois Jésus tel qu'il est vraiment, l'image de Dieu, l'amour de Dieu incarné qui est venu donner sa vie pour que tu puisses avoir la vraie vie, une vie dans la présence de Dieu qui dure jusque dans l'éternité. Barnabas arrive à Antioche, je me répète, hein, et il voit la grâce de Dieu. Et j'aimerais suggérer trois choses que Barnabas a vues. Il y en a sans doute d'autres, mais j'aimerais m'attarder sur trois choses que Barnabas a vues. D'abord, il a vu que Dieu a transformé la persécution en prédication. Dieu a transformé la persécution en prédication. Dieu utilise la persécution et la souffrance de son peuple pour répandre l'évangile de la bonne nouvelle. Barnabas y voit des hommes et des femmes qui ont été dispersés à cause de la persécution et qui ont annoncé Christ là où ils ont été éparpillés. On en a parlé les dimanches auparavant. Ils ont dû tout quitter, partir loin de chez eux, de leurs amis, de leur situation. Ils ont vécu une véritable injustice. Ils ont souffert, mais malgré tout cela, ils ont continué d'annoncer celui en qui ils ont cru. En d'autres termes, la bonne nouvelle de l'évangile est arrivée jusqu'à Antioche à cause de la persécution. C'est ce que Barnabas a vu. C'est ce qu'il a appelé la grâce de Dieu, et ça l'a réjoui. Parce que la grâce de Dieu, elle devient visible quand elle fait de la persécution, de la souffrance, un moyen de répandre la bonne nouvelle de Jésus. La grâce de Dieu devient visible quand elle fait que la persécution ou la souffrance, de la souffrance, un moyen de répandre la bonne nouvelle de Jésus. J'aimerais vous parler d'un... J'ai vu un témoignage d'une personne que vous connaissez sans doute, vous en avez déjà dû entendre parler, peut-être vous avez déjà entendu son témoignage. Il s'appelle Nick Voce, si je prononce bien. Je ne sais pas. Il est né sans bras et sans jambes. Et à l'église, tout était dans le deuil, disant pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi. Et il a fallu beaucoup de temps à ses parents pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'ils n'avaient pas commis une erreur et qu'ils ne les avaient pas oubliés. Si tu peux mettre la vidéo, Ethan, et puis on va en parler quelques instants. Alors, ce n'est pas un homme qui a subi la persécution, mais il a vécu quelque chose, des circonstances de sa vie qui étaient compliquées. Et on va regarder ce que Dieu a fait au travers de ça. Voilà. Moi, je vois la grâce de Dieu au travers de tout ça. On lit dans son témoignage, Il a dit ceci, « On réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes, je suis un enfant de Dieu, je suis pardonné de mes péchés, je suis un ambassadeur du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien, mais Dieu en revanche vit en moi maintenant et je vis dans sa force. » Il a dit également, « Si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes ce miracle pour le salut d'autres personnes. » Je préfère temporairement ne pas avoir de bras et de jambes ici sur terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux. Et puis il cite à la fin de son témoignage Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ne se lassent pas, ils marchent, ne se fatiguent point. Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent, je n'avais pas besoin de bras et de jambes, j'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole parce que je sais que Jésus me tient debout. » Je suis touché parce que ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire au travers de nos vies. Et quand Barnabas est arrivé donc à Antioche, il a vu la grâce de Dieu. J'aimerais lire un passage dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et du verset 7 à 15. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Le Fils de Dieu, Jésus, lui-même a souffert pour sauver des hommes et des femmes de la condamnation. Son rejet, ses souffrances, ses tortures, sa mort sont devenues pour nous grâce de Dieu, car elle nous sauve de la condamnation que nous méritons à cause de nos péchés. Et la grâce de Dieu, quand nous la voyons, que nous la considérons, nous donne la joie. On voit l'amour de Dieu pour le monde, on voit l'amour de Dieu pour nous. Et j'ai envie de te dire ce matin, Dieu t'aime tellement. Il t'aime tel que tu es, peu importe ce que tu as fait, il a donné son fils pour toi. Donc Barnabas, il arrive à Antioche, il voit la grâce de Dieu, et ce que je pense, c'est qu'il a vu Dieu qui a transformé la persécution, qui a transformé des souffrances en prédication, en annonce de cet évangile de la bonne nouvelle. Il a vu Dieu agir également au travers d'hommes et de femmes ordinaires. Les croyants qui ont été dispersés étaient des hommes et des femmes comme vous et moi. Ils n'avaient pas reçu de directive de l'Église de Jérusalem. Aucun apôtre ne les accompagnait. Leur situation n'était pas des plus idéales, nous l'avons vu. Juste, il nous a rapporté qu'ils annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, cette main qui symbolise la puissance du Seigneur, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. À tel point que ça a fait parler, ça a fait du bruit. Ça a fait le buzz en quelque sorte. Sauf qu'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et les moyens de communication qu'on connaît aujourd'hui, et ce bruit va parcourir plus de 500 km pour arriver jusqu'aux oreilles de ceux qui étaient à Jérusalem, des apôtres. Et ils envoient Barnabas à Antioche pour se rendre compte du mouvement religieux qui avait attiré dans cette ville un si grand nombre de païens à l'évangile. Donc ils envoient Barnabas. Cela devrait nous aider à considérer que nous ne sommes pas trop petits ou trop ordinaires pour servir le Seigneur. Nous voyons tout au long des Écritures que Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, et le témoignage qu'on a vu en est un aussi. C'est la présence de Dieu à nos côtés qui nous qualifie pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos dons, c'est vraiment la présence de Dieu qui est importante. C'est le Saint-Esprit qui est dans nos vies. Et je pense que parfois on a trop tendance à nous disqualifier parce qu'on regarde à nos propres forces, à nos propres capacités, parce que nous nous focalisons sur nous plutôt que sur Dieu et sur ce que lui est capable de faire. Nous devons lui faire confiance, nous appuyer sur ses capacités à lui, en lui obéissant. Et j'aurais envie de dire, si on ne fait pas ça, alors on devrait se poser cette question, à quel évangile est-ce qu'on a répondu ? Ou alors, c'est que nous doutons de lui. Nous doutons, en fait, qu'il puisse changer le cœur de cette personne. Nous doutons qu'il puisse guérir cette personne. Nous doutons qu'il puisse intervenir dans cette situation. Et là, j'aurais envie de dire, c'est plus grave. Car nous le faisons menteur. Et si c'est le cas, on a besoin de se repentir, de demander pardon, pour qu'il vienne changer nos pensées, qu'il vienne changer notre cœur et ouvrir à nouveau nos yeux sur sa grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu qui agit. Dans ce texte, ces croyants dispersés par la persécution en galère témoignaient de l'amour de Dieu en Jésus. Et grand fut le nombre de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur. Je fais une petite parenthèse. L'Assemblée de Jérusalem, elle n'hésite pas à envoyer Barnabas. L'un des meilleurs éléments qu'ils avaient pour le service du Seigneur. Et je trouve que ça doit nous parler aussi. Ils n'hésitent pas à envoyer les meilleurs. Le meilleur. Donc Barnabas, il a vu aussi un grand nombre de personnes converties au Seigneur. Il l'a vu. Et c'est aussi ce que voit Barnabas et qui participe, je crois, à ce qu'il a vu, la grâce de Dieu. Il nous a dit au verset 21, « Grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. » Et plus loin, on lira encore au verset 24, « Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. » Et au verset 26, « Ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent et une foule assez nombreuse. » Il est intéressant de relever que la croissance du nombre de convertis, même si ce n'est pas une finalité en soi à rechercher, cette croissance de nombre de convertis n'est pas le fait d'un leader ou d'une stratégie humaine particulière. Il n'y en a pas, ici, mais de Dieu. Il nous est dit au verset 21, « La main du Seigneur était avec eux. » Bien que les disciples aient entendu de Jésus qu'il recevrait le Saint-Esprit et qu'il serait ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous ne voyons au départ aucune stratégie de leur part pour atteindre ces contrées. C'est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit et des circonstances que Dieu utilise à dessein. Cette église naissante à Antioche, c'est le fruit de l'action de Dieu. Et Barnabas, il n'est pas venu en inquisiteur ou pour vérifier si tout était en ordre, il est venu dans un état d'esprit entièrement positif pour constater ce que la grâce de Dieu avait produit indépendamment des apôtres. Quand il a vu le grand nombre de convertis, il s'est réjoui. Et il les a exhortés à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur. Et Dieu a béni son ministère à ce moment-là. Il multipliait les conversions à tel point qu'une grande foule se joignit au Seigneur. Verset 24. Et sans doute, conscient de ses limites, devant l'œuvre grandissante de Dieu dans cette ville, et peut-être aussi pour que Saul voie aussi la grâce de Dieu, Barnabas va chercher Saul à Tarse pour l'aider à enseigner ses nouveaux convertis. Et ils vont enseigner ensemble l'assemblée pendant un an. Et c'est là qu'en voyant vivre les disciples, on leur donne le nom de chrétien, qui veut dire disciple de Christ. Je fais une autre parenthèse. Ce surnom qu'on leur donne, chrétien, démontre que les serviteurs de Dieu n'attiraient pas l'attention sur eux-mêmes, mais sur Christ. Ils n'étaient pas des disciples de Barnabas ou des disciples de Saul, ils étaient des disciples de Christ. Et que les disciples, si différents par leur origine, suivaient Christ et non des hommes. Seul Christ les unissait. Non leur culture, non leur race ou leur langue, ce n'est plus qui ils sont, mais de qui ils sont. Ils sont de Christ. Nous n'en parlons peut-être pas souvent ces derniers temps, mais nous n'avons pas oublié que nous sommes appelés à nous multiplier. Et cette multiplication, cette croissance doit aussi passer au travers de l'implantation d'Église. Et là, on voit une implantation qui se passe à Antioche. Dieu veut que son évangile se répande, et pour cela, il doit être annoncé dans toutes les villes, dans toutes les régions, dans tout le pays, dans tous les pays, dans le monde entier. À Antioche, ça a commencé par une poignée de croyants envoyés par la persécution, je l'ai dit, hein, dans cette ville, qui ont partagé Christ et dont le témoignage, par l'action puissante de Dieu, a produit beaucoup de conversions. Ce texte, je pense qu'il nous enseigne à être attentifs à ce que Dieu fait, où et comment il agit, et d'avoir un cœur comme Barnabas, un cœur bien disposé, qui a un regard ouvert et positif pour voir comment la grâce de Dieu agit. Je pense que Dieu peut nous appeler à aller dans tel ou tel endroit de façon prophétique, c'est clair, ou de façon stratégique, en nous montrant des besoins. Et je pense aussi qu'il peut agir d'une manière particulière qui nous fait dire « La grâce de Dieu est ici. Allons-y pour construire, allons-y pour bâtir. » Comme Barnabas et Saul qui se sont installés à Antioche pendant un an pour enseigner cette église naissante. Je pense qu'il y a vraiment un encouragement à être attentif à ce que Dieu fait. Et je ne sais pas, peut-être qu'on dit n'importe quoi, mais mettons, imaginons, on démarre un groupe de vie et puis on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des conversions particulières, ben, peut-être que Dieu parle à ce moment-là. C'est quelque chose qu'il nous faut garder en tête. Si on forme des leaders, si on fait cette académie, s'il y en a qui prennent de plus en plus, dans le place, si on fait lever des hommes et des femmes, c'est aussi en vue de la multiplication, c'est en vue d'implantation. C'est notre vocation, c'est notre mission, c'est ce que Jésus nous a demandé de faire, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de Christ. Nous le faisons, mais il y a encore plus. Et Dieu nous demande d'être attentifs, de voir et de reconnaître la grâce de Dieu qui agit. Parce que quand on voit la grâce de Dieu qui agit, ça fortifie notre foi. Ça réjouit notre cœur et ça nous pousse à agir. J'aimerais conclure en disant « Dieu accomplit son plan que rien ni personne, aucune circonstance, aussi terrible soit-elle, ne pourra contrarier. Dieu sauve et il sauve encore aujourd'hui. Et pour répandre la bonne nouvelle de Christ, il le fait au travers d'hommes et de femmes ordinaires, comme vous et moi. Il le fait au travers de son Église. » 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. » Nous sommes pour Dieu, vous êtes pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Dieu fait de vous cette fragrance de Jésus dans le monde, cette bonne odeur. Pourquoi une odeur de vie pour certains et de mort pour d'autres ? Parce que c'est au sujet de Jésus, parce que c'est au sujet de Christ qui est le seul chemin vers Dieu. Certains vont l'accueillir, d'autres vont le rejeter. Il nous faut garder le regard fixé sur Dieu, alors nous allons voir sa grâce à l'œuvre, nous réjouir et agir. Et c'est ce que fait une église qui est en mission. Elle marche à la suite de Christ, elle proclame l'évangile et elle se répand. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie pour terminer. Merci Seigneur parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que par ton Saint-Esprit, tu es à l'œuvre dans nos vies. Et dans l'avancement de ton royaume, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous envoies, Seigneur, et tu ne nous as pas envoyés seuls. Merci parce que tu es avec nous. Apprends-nous à reconnaître ta grâce, Seigneur, à nous réjouir de ce que tu fais, à avoir les yeux toujours tournés vers toi, pour voir qui tu es vraiment, pour voir ta puissance à l'œuvre. Nous en réjouir et agir. Merci parce que tu as choisi de te révéler au monde. Et merci parce que tu as choisi de le faire au travers d'hommes et de femmes ordinaires. Que tu équipes, que tu remplis de la puissance de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent proclamer l'Évangile. Nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui te servent, qui répondent à ton appel. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui témoignent de ton amour à toutes celles et ceux que tu places sur leur route. Rends-nous attentifs à ce que tu fais, Seigneur. Continue de parler, de nous parler comme tu le fais déjà, Seigneur. Nous avons soif de nous multiplier, Seigneur. Nous avons soif d'implanter aussi pour atteindre des endroits qui ne sont pas encore atteints, ou peut-être qu'il n'y a pas d'église. Continue de faire ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen.